elle est atypique, parce que du point de vue de l'ordre de la naissance naturelle, le verset aurait dû dire « mère d'Ésaü et de Jacob ». Or ici, il y a « mère de Jacob et d'Ésaü ». Alors tu pourrais croire que puisque Jacob est avant Ésaü, ça veut dire qu'Ésaü va faire tchouva. Rachid dit « non, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça veut dire « ça ne veut pas dire ça ». Mais ça, il ne peut pas le dire en public, en milieu chrétien. Alors, vous avez compris le problème ? Et d'où nous le savons ? Nous l'avons appris en milieu musulman. C'est d'autres chitotes. Ça y est, c'est clair ? Donc, maintenant, il y a un commentaire des chassidim que j'ai entendu cette année, et qui est que, un peu ce que je disais tout à l'heure, que Rivka est la mère de Jacob et d'Ésaü, elle se préoccupe des deux. Comme on l'a vu tout à l'heure, Ken, pourquoi serais-je veuve de vous deux ? Alors, en allant chez la mère de Jacob, quand si Jacob va chez Rivka appelée mère de Jacob, Ésaü est aussi sauvé. Parce que si Jacob ne reste pas dans le monde, Ésaü est perdu. Je peux vous le dire d'une autre manière par rapport au problème contemporain. Figurez-vous que la semaine dernière, j'étais donc en Europe, et le sujet de là-bas, c'était précisément ce qui va se passer entre le Vatican et Rome. Et il y avait, en particulier dans une assemblée d'ecclésiastiques, vous voyez pourquoi je suis enroué. J'étais obligé de boire du rhum. Surtout la question suivante. Expliquez-nous pourquoi, nous chrétiens, on ne peut pas se passer du judaïsme, alors que vous, juifs, vous pouvez passer du christianisme. Mais c'est un problème important. C'est-à-dire que les chrétiens ne peuvent pas se passer du judaïsme. Sans judaïsme, ils n'existent plus. Ils doivent s'adosser à l'identité juive. Mais un juif peut être juif en dehors de la planète Rome. Je ne sais pas si c'est clair. Je me rappelle mon enfance. On a vécu chez les musulmans. Alors les chrétiens, on avait entendu parler. C'est des barbares qui se prennent pour Israël. Mais c'est des histoires exotiques. Un juif sfaradi n'a jamais pris au sérieux le danger chrétien. C'est les ashkenazim qui ont pris au sérieux le danger chrétien. Je ne sais pas si vous me dites. Le juif sfaradi, le danger sérieux, c'est le danger musulman qui n'a rien à voir. Pas une histoire religieuse, une histoire politique. En tout cas, pour revenir au sujet, nous voyons que Isaac a envoyé Jacob à Padan Aram, c'est clair ? Alors, la parenthèse commence au verset 6. Vaya Esav, vous allez retrouver Rashi. Vaya Esav qui berach Yitzhak et Yaakov. Et Esaü vit que Isaac avait béni Jacob, Veshilachoto Padan Aram, et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram, la kahat lo misha misha, pour qu'il prenne de là-bas une femme. De Barachot, en le bénissant à lui Jacob, Vaitzavalav les morts, et en lui prescrivant, Lotika Ishami Benot Knaan, tu ne prendras pas, il faut lui mettre les points sur les yeux celui-là, okay, tu ne prendras pas de femme au pays de Canaan. Vaishma Yaakov, verset 7, et que Jacob a écouté, et la bive et l'imo à son père et à sa mère, Vaïeler Padan Aram, et qui est allé à Padan Aram. Nous avons la clé de notre problème dans ce verset. Ésaü n'a compris qu'une seule chose, c'est que ses femmes étaient mauvaises aux yeux d'Isaac. Alors qu'il a pris acte, il a découvert que pour Jacob, elles étaient mauvaises aux yeux d'Isaac et de Rivka. Alors ce qu'on apprend, c'est que Isaac a un lien d'intimité, Ésaü a un lien d'intimité avec Isaac, mais sa mère, il ne veut pas entendre parler. Vous avez remarqué ça ? Alors, verset 8, retenez ça encore. Vayar Esav, et il vit Ésaü, qui raot benot Knaan, que les filles de Knaan étaient mauvaises, ben et Yitzhak aviv. Le texte revient sur ça, aux yeux de Isaac son père. Vaïlech Esav el Ishmael. Alors Ésaü alla chez Ishmael. Vaïkar et Mahalat. Et il prit Mahalat, bat Ishmael, fille d'Ishmael, ben Abraham, fils d'Abraham, achot Nevayot, sœur de Nevayot, al Nashav, en plus que ses femmes, lo leisha pour lui, pour femme. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un demi-repentir d'Ésaü. Un demi-repentir par rapport à Isaac. Et comment il réalise ce demi-repentir? En prenant une femme monothéiste, fille d'Ishmaël. Mais il garde sa trinité païenne en dessous. Vous avez compris? C'est assez saisissant, quand même. Mais quoi qu'il en soit, ce demi-repentir va accroître son mérite, et donc la motivation va changer. Il faut que Jacob prenne conscience qu'Ésaü devient plus dangereux pour lui, étant l'allié d'Ishmaël. Et donc c'est à Haran qui va et pas à Beersheba. Et pas à Padan Aram. Ça y est, c'est clair ? Bon, si c'est pas trop clair, on peut éclaircir un peu. mais je ne voudrais pas trop ajouter de références. On continue un peu. Dans Rashi, je voudrais montrer quelque chose dans Rashi. Prenez le troisième Rashi, Vaelecha Ana. Rashi sur la fin du verset 10. Et il partit à Haran. Le verset nous dit, il partit à Haran. Ça va ? Rashi dit, Yatsa, il est sorti, l'alechet le Haran, pour aller à Haran. Tiens, là je reprends votre... Comment il s'appelle ton voisin là ? Vous voyez ? Je vous traduis ce Rashi là. Rashi semble nous dire ce qu'on appelle en français, même à Troyes en Champagne, une lapalissade. Le verset dit, et il alla à Haran. Qu'est-ce que dit Rashi ? Suis bien Rashi. Il est sorti pour aller à Haran. Qu'est-ce qu'il nous apprend ? Alors maintenant, on comprend mieux Rashi. Il est sorti de Beersheba dans l'intention d'aller à Padan Aram, mais en réalité, il est allé à Haran. Ça y est, c'est clair ? Parce que le verset lui-même était expliqué, et il sortit de Beersheba et il alla à Haran. Mais pour aller à Haran, il faut qu'il sorte de Beersheba. Qu'est-ce que ça m'apprend qu'il est sorti de Beersheba ? Vous avez compris le problème ? Donc, alors, c'est pas qu'il y a là simplement une indication, c'est l'habitude de Rashi, de donner son enseignement derrière une règle de grammaire. Très souvent, Rashi explique, il y a « he » à la fin d'un mot pour remplacer le « lamed » au commencement d'un mot. « Leharan » devient « harana ». Parce que le « he » de la fin du mot, ça indique la direction avant qu'on y arrive, quelque part. « Mitzrayima » en direction de l'Égypte. « Shamaima » en direction du ciel. Et « harana » en direction de « harana ». Ça va jusque-là ? Je me souviens bien, les grammairiens appellent ce « he » un « he » paragogique. Ça me rappelle toujours l'élixir... comment il s'appelle l'élixir ?
Parégorique.
C'est catégorique. Alors c'est le « he » qui indique la direction. Voilà donc ce que je voulais indiquer. Ça veut dire que il y a eu, dès l'origine, un demi-repentir d'Ésaü. Il se repent vis-à-vis de son père et pas vis-à-vis de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, là, nous allons changer de registre d'étude. On va l'étudier d'après le Midrash. Le Midrash, mais retenez en tout cas cela, il y a eu dans l'histoire un demi-repentir de Rome. La Rome païenne est devenue la Rome chrétienne. Alors, je vais vous situer ça à ce niveau-là. Ce changement de la Rome païenne devenant la Rome chrétienne, c'est un événement historique énorme, d'ailleurs, que la Rome païenne devient la Rome chrétienne. Il faut dire, d'ailleurs, que la Rome païenne a réussi à imposer à la communauté chrétienne ses structures impériales. Et au bout de 300 ans, c'est autant à partir de Constantin, la communauté chrétienne a capitulé, abdiqué devant l'Empire romain. En christianisant l'Empire romain, en réalité, elle s'est fait impérialiser. Je sais pas comment dire. Elle est devenue l'Empire chrétien. Ce que le pape d'ailleurs montrait avec la triple tiare, dont une était celle de l'empereur. D'ailleurs, je crois que c'est le pape, quel pape, Jean XXIII, ou celui qui a suivi, qui a enlevé la triple tiare. Enfin, on retrouvera ça dans les archives. Vous vous rappelez de ça, en tout cas, qu'il y a eu. Bon, après Vatican II, d'ailleurs, on cherche à désimpérialiser l'Église, mais je vous garantis que les spécialistes de Rome savent à quel point il y a une inertie de la cité du Vatican qui est énorme. Dans n'importe quel pays au monde, il y a à la rigueur 300 serviteurs inutiles d'un ministre. Là-bas, il y en a 3000 chaque fois. En tout cas, pour revenir au sujet, il s'est produit ce demi-repentir. Et voilà le message que je voudrais citer. Il ne parle pas de ce problème, mais d'après ce qu'il traite, ça éclaire notre problème. Il y a un verset des Proverbes que vous connaissez certainement, et puisqu'on lit les proverbes à Shavuot, je ne sais pas si dans les communautés ashkenazes, est-ce qu'on lit le Michelet à Shavuot ? En tout cas, dans les communautés sfarades. On lit Ruth et Michelet. On n'est pas d'habitude, je ne sais pas. En tout cas, il y a le verset suivant. « Shema Rabbeni, écoute mon fils, Moussa Rabicha, la morale de ton père, ve'al titosh, et n'abandonne pas Torah Timecha, la Torah de ta mère. » Regardez comme ce verset s'adapte à notre question. Le Midrash dit En Abicha et la Abicha Sheva Shamaim. Le père dont il est parlé ici, dans ce verset, c'est ton père qui est aux cieux. Ve'en Imecha et la Knesset Israël. et ta mère, c'est l'assemblée d'Israël. Alors regardez exactement ce qui se passe pour Ésaü. Finalement, il a accepté la morale de son père qui est aux cieux, de Dieu le Père, comme ils disent, la morale, mais pas la religion. La Torah de sa mère, il la rejette. La Torah d'Israël, il la rejette. Et alors, le demi repentir, c'est vis-à-vis de son père. Mais il y a la mère. Alors, il s'invente une mère qui n'est pas mère, parce que c'est par l'opération du Saint-Esprit que... Bon. Et alors... Je crois que peut-être nous commençons un temps où Ésaü va un peu se repentir vis-à-vis de sa mère. Parce que reconnaître l'État d'Israël, je vous garantis qu'il faut le faire quand on est romain. On en a parlé ces dernières années de temps en temps. Mais voilà que non seulement c'est vrai, mais c'est vrai que c'est vrai. Alors ça, c'est trop. Et voilà, vous vivez des temps héroïques. Il faudra que Rabbi Astérix raconte ça. Ils sont fous, ces Romains. Okay. Voilà, en tout cas, pour la première étude que nous avons. Oui, je vous écoute. Attendez, madame a besoin de poser une question. Ça s'est résorbé. Donc.
Est-ce que vous ne pensez pas que cette reconnaissance de la chrétienté est liée au fait qu'on vient partager la terre d'Israël et donc il y a un doute qui naît sur l'identité même d'Israël, puisqu'elle est partagée entre le croissant et la baguette David, alors la croix peut permettre de nous connaître.
En grande partie. Mais je pense surtout qu'il y a un secret espoir chez beaucoup de Romains que on passe. C'est pas qu'on partagera, qu'on rendra tout. Un peu ce que pensent les Palestiniens eux-mêmes, d'ailleurs. Parce que dès que le gouvernement israélien dit Jéricho et Gaza, d'abord, c'est bien une suite. Mais pour les Palestiniens, la suite, on la connaît, c'est la mer. C'est évident, bon, ça se passera pas comme ça. Parce que le bon Dieu joue pas au billet, mais c'est pas la faute de la Knesset. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est avec une pseudo-majorité que cet accord a été... Pas encore signé, c'est un projet d'accord, c'est pas encore signé. Je veux dire, c'est une pseudo-majorité. Le gouvernement lui-même n'avait qu'une majorité possible parce que plus que 56 voix, il avait la voix des Arabes et des orthodoxes farades anti-sionistes. Je sais de quoi je parle. Entre Meretz et Maharar, pour avoir 60, il fallait qu'ils aient les voix des Arabes, ça leur fait 61, mais avec les voix de chat, ça lui faisait 67. C'est ça. Bon, ça, c'est le gouvernement. Quand la Haute Cour de justice a obligé les Sfaradim à quitter le gouvernement pour des raisons de justice, alors ils n'avaient plus que 56 voix. Parce que les Arabes font pression, si tu acceptes qu'on te demande, tu as 61, sinon... C'est-à-dire que c'est les Arabes qui décident, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est les Arabes qui décident avec la complicité des orthodoxes anti-sionistes. Donc c'est une... Et c'est légal, d'après la démocratie israélienne, 61 voix, c'est la majorité. Mais ce n'est pas légitime. Ce que j'essayais de dire à la conférence à Eichal Shlomo, et je me suis aperçu que les Israéliens ne comprennent plus le français, ça m'a rassuré d'ailleurs, ils ne sont pas arrivés à comprendre la différence entre légal et légitime. Vous avez dû remarquer ça. Tout le monde a cru que j'ai dit que c'était légitime. Alors que c'est légal et pas légitime. Et que c'est pas légitime, ça, vous comprenez la différence, moi j'espère. Ça veut dire que c'est basé sur un mensonge politique éhonté. Mais que le monde entier se lave les mains et s'en félicite, comme Ponce Pilate. Vous savez, se laver les mains, le père Ponce. Mais que les Juifs et les Israéliens surtout fassent semblant que c'est légitime, alors ça, c'est quelque chose qui va pas, qui va un peu dans le sens que vous dites. Alors, il faut rester vigilant. Parce que petit à petit, le gouvernement s'arrange pour essayer de prendre de vitesse le fait que le gouvernement va se dissoudre et qu'il y aura des élections. Et à partir du moment où il y aura des élections, la majorité va changer. Et parce que les Israéliens, en beau être abrutis, ils sont pas fous. Comment dire ça ? Et à ce moment-là, bon, c'est les Arabes qui refuseront les nouvelles propositions du nouveau gouvernement. Je suppose que c'est comme ça que ça va se développer, il n'y a pas d'issue autre que la guerre civile. Alors, il vaut mieux ne pas l'espérer. Alors, ceci dit, la raison pour laquelle le Vatican ne voulait pas reconnaître l'État d'Israël, il y avait trois raisons. La première raison, c'était vraiment faux, mais légal. C'est que le Vatican, ce qui est vrai d'autre part, ne reconnaît que des États qui ont des frontières reconnues. Or, comme Israël n'a pas de frontières reconnues, c'est un argument qui n'est pas authentique. J'ai discuté de ça très souvent avec les assemblées ecclésiastiques qui étaient très gênées de me dire ces trois faux arguments que je vous énumère. Le deuxième, c'est que il s'agit de la Terre Sainte, et qu'il y a des biens d'église en Terre Sainte, et qu'il y a surtout des Arabes, et que tant que les droits des Palestiniens ne sont pas reconnus, comment reconnaître la présence juive en Terre Sainte ? Il ne faut pas faire deux poids deux mesures, même si pendant longtemps on a fait deux poids deux mesures, que ce soit la Jordanie qui occupe les lieux saints, c'est pas grave, mais dès que c'est Israël, c'est un blasphème. Et puis, troisièmement, vous m'avez fait oublier le troisième argument. Le troisième empêchement, c'est que reconnaître Israël a des implications théologiques énormes. Et alors, on ne sait pas encore, on ne connaît pas l'acte par lequel l'État d'Israël va être reconnu, à quel niveau c'est reconnu. Mais le Vatican a pris trois problèmes. Le judaïsme comme religion, le peuple juif comme histoire et comme mémoire, et l'État d'Israël comme nation. Il a trois problèmes différents. Alors il a essayé une première stratégie, reconnaître le judaïsme, c'est une religion valable. C'est une des religions chrétiennes, que les plus. Et puis le peuple juif, oh, il a tellement souffert, ce pauvre peuple, qu'il faut au moins le consoler à Auschwitz, on va mettre une croix. Et puis, maintenant, la nation, alors ça, c'est plus difficile. Si on reconnaît la nation d'Israël, la théologie chrétienne est en danger, ça c'est sûr. Par conséquent, moi j'attends de savoir sous quelle forme c'est reconnu. Est-ce que ça va être un accord genre de facto qui se prend pour des jurés sans être vraiment des jurés, une sorte de capitulation comme on disait avec l'Empire ottoman? Est-ce que ça va être purement une tractation au niveau consulaire, municipal? Est-ce que je sais? Quelles sont les conditions? Quel prix à payer pour les églises? Parce qu'ils ont tout un contentieux de Jérusalem chrétienne, sans compter Nazareth et le reste, et Saint-Jean d'Acre. Oublier. Par conséquent, pour voir de quoi il s'agit. Mais le seul fait que la question se pose, c'est un tremblement de terre sainte. Et donc, effectivement, vous savez, je vous dis un proverbe talmudique, Chabdehu behashdehu. Ça veut dire honore-le et soupçonne-le. Chabdehu behashdehu. On verra bien comment ça tourne. Seulement, il faut se mettre à leur place. Alors maintenant, on va faire un peu de charité chrétienne vis-à-vis des chrétiens. Il faut se rendre compte du traumatisme énorme dans lequel ils sont. Pendant 2000 ans, ils étaient sûrs, croix de fer, croix de bois, que c'était eux, Israël. Et puis, subitement, c'est les Juifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a de quoi rendre malade même un Romain. Je ne sais pas si. Alors, ils vont avoir un travail de Romain pour s'en sortir. Non, je crois vraiment que ce n'est pas une blague. Il faut avoir beaucoup de pitié pour eux. Ils doivent se sentir très mal. D'être obligé, parce qu'il ne faut pas qu'ils attendent que la Mongolie extérieure reconnaisse Israël pour que le Vatican se mette sur les rangs. Quoi. Et voilà à peu près le problème. Il y a un deuxième problème qui apparaît. Vous savez, d'après ce que je sais de ces problèmes, Israël, ces dernières années, n'avait plus tellement intérêt à ce que le Vatican reconnaisse Israël. Parce que finalement, le monde entier s'est mis à reconnaître Israël. Pour des raisons diverses et variées, et même avariées. Mais c'est l'intérêt du Vatican de reconnaître l'État d'Israël. Seulement, si le Vatican reconnaît l'État d'Israël, c'est-à-dire que l'Église catholique tient compte que l'identité juive, c'est Israël, que devient la diaspora juive dans l'histoire? Il y aura une compétition de deux diasporas, la chrétienté et la diaspora juive. Et mais la chrétienté est de taille à avaler la diaspora juive. Sans problème, sans hésitation. Il restera des petites forteresses ghetto, mais ça va se christianiser en diaspora, parce que vous allez voir les embrassades. Alors on dit Amen de la même manière, Amène-toi. Et puis de la même manière que vous avez chez les Juifs l'ivresse du commerce avec les Arabes, vous aurez chez les Juifs, je parle de diaspora, l'ivresse d'un autre commerce, le commerce des idées avec les chrétiens. Alors le problème n'est pas tellement pour Israël, le problème c'est pour la diaspora juive. Bien évident. Parce que finalement, il va y avoir une compétition de diaspora. Et à l'origine, effectivement, les Juifs, c'était la diaspora fidèle à la nation hébraïque, avec une fidélité difficile, mais qui ne s'est jamais démentie. Et rester juif, quelqu'un qui dit Amen en hébreu. Alors que le chrétien, c'était à l'origine des Juifs qui ont opté pour la culture et le culte gréco-romain. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui dit Amen en latin. Même quand ils parlent français. Mais j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui étaient persuadés que Amen, c'était du latin. Et il a fallu qu'ils entendent les Arabes disent « Amin » pour se rendre compte qu'il y avait un problème. Bon, alors voilà pour votre question. D'ailleurs, je dois vous dire que les commissions des affaires étrangères qui s'occupent de ça depuis quelques années, les affaires étrangères israéliennes, sont très au fait des tenants et aboutissants. Alors, rassurez-vous. Bien, ceci dit, je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure il est ? 8h15. Bon, un quart d'heure, j'ose pas ouvrir un autre sujet. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous trouver des réponses. La paracha de Yetzé, c'est plein de questions. Ne restez pas silencieux. En vérité, j'en profite une minute. J'en profite pour vous dire, prenez quand même un quart d'heure au moins pour lire la paracha avant de venir au cours. Parce que je préfère répondre à vos questions, essayer en tout cas combien. Quoique souvent vos questions me permettent de mieux comprendre mes réponses. Non, c'est pas une blague. C'était lui d'abord à toi.
Non, je disais que Esav n'est pas Yaakov, mais Yaakov n'est pas Esav.
Non.
Alors, quelles sont les conséquences
à quoi tu raccroches ça? C'est-à-dire, voilà. Vous allez prendre un verset. Dans la parcha de Toldot, et on sortira du verset.
Ça dérange le projet d'Israël, c'est ça que je voulais
dire. Non, le projet d'Israël, on a appris déjà qu'il est impraticable. Il a fallu d'ailleurs qu'Israël s'en rende compte lui-même. Je vais vous ouvrir une parenthèse de Torah fiction. Vous avez entendu parler de Jules Isaac. C'est Jules Isaac qui a démontré que Ésaü n'aime pas Jacob. Et Jules Isaac est un historien français très assimilé, qui a été secoué par la Shoah, où il a perdu sa femme, je crois, et sa fille. Il s'est dit, il faut que j'arrive à comprendre quelles étaient les racines de cet antisémitisme aberrant. Il y a trouvé derrière l'antisémitisme chrétien, l'antijudaïsme chrétien. Il a fait un premier livre qui s'appelait « Jésus et Israël », et ensuite un livre qui s'appelait « Les sources de l'antisémitisme chrétien ». Et ce sont ces livres qui ont obligé le Vatican à prendre au sérieux les demandes des personnalités qui préparaient les amitiés judéo-chrétiennes, surtout en France, mais pas seulement en France. Et en France, les amitiés judéo-chrétiennes ont été préparées par Jules Isaac et Edmond Fleck. Et ça a abouti à un premier congrès, qui était le congrès de Seligsberg, les fameux 11 points de Seligsberg, je ne sais pas si vous avez suivi ça, et où on a compris que l'Église commençait à réviser ce qu'on appelle sa catéchèse en ce qui concerne les Juifs. Ça prend du temps, c'est au forceps, il y a des hauts et des bas. Je dois vous dire que la commission épiscopale française qui s'occupe de ça est bien en avance sur toutes les autres, sur le Vatican y compris. Si c'était Jean-Paul II qui avait continué, pardon, si c'était Jean XXIII qui avait continué ce qu'il avait commencé, ça serait allé beaucoup plus loin. Mais Jean-Paul II, lui, c'est le regret. Il y a des progrès, il y a des regrets. Et en plus, c'est un pape polonais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a deux raisons de ne pas être juif. Comme chrétien, je veux dire. J'ai pensé à autre chose. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Mais pourquoi j'ai parlé de ce que vous avez dit ? Ah oui, Jules Isaac. Alors j'étais frappé de cela. C'est qu'il faut le faire quand même pour s'appeler Isaac. C'est un nom de famille juive très peu répandu, surtout chez les Ashkenazim, d'Alsace-Lorraine. C'est surtout un prénom, Isaac. Il y a très peu de juifs qui s'appellent Isaac. Et en plus du Jules. Alors regarde, c'est le prénom romain par excellence. Alors tout se passe comme s'il a fallu que Isaac revienne sous l'apparence de Jules. Et on y a cru que parce qu'il y a l'histoire de France, vous vous rappelez Malé Isaac, pour découvrir que c'est vrai, Ésaü haït Jacob. Mais maintenant je reprends ton problème. Ça donne le vertige, hein, ces choses-là. Mais. Je veux dire, c'est un livre qui a été mal digéré par les chrétiens. Parce que rédigé sans se cacher en disant « je suis un juif assimilé », s'il y avait une religion à laquelle j'aurais cru, ça aurait été le christianisme, je vais prendre les postulats des chrétiens pour leur démontrer que dans leur postulat, ils ont tort d'être anti-juifs. Ce n'est pas un livre écrit du point de vue des postulats juifs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un livre écrit en prenant la problématique chrétienne. Et alors, ça leur a fait énormément de mal de voir qu'on les mettait face à leur miroir. Alors, vous allez prendre le verset 41 du chapitre 27. Je vais vous lire ce verset. Et après, on rattachera à ta question. Alors, le verset 41 du chapitre 27. Vous y êtes ? Vaïstom, Esav et Yaakov, et Esaü, haï. C'est un mot pour dire la haine qui est plus fort que Vaïsna, Sina, Sitna. Vaïstom, Esav et Yaakov, et Esaü, haï Jacob, à la Beracha, à cause de la bénédiction, Asher Beracho Aviv, dont son père l'avait béni, et on a l'habitude de lire, dont son père avait béni Jacob. Vaïomar, Vaïomer Esav, Belibo, et Esaü dit en son cœur, Ikrevou Yemeve la vie, les jours de deuil de mon père arriveront, Vaharega et Yaakovachi, et je tuerai Jacob mon frère. Et vous voyez ce que dit ce verset, tant qu'Isaac est vivant, Esaü ne peut rien contre Jacob. Mais je lis Isaac. Hein. Eh bien, c'est la manière de lire habituelle. Et je reprends, c'est pas faux, mais on va lire autrement. Et Esaü haït Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. On lit que son père, c'est le père d'Esaü. Asher Berachou Aviv. Asher Berachou Aviv. Oui, c'est le père d'Esaü. Et on ne se rend pas compte que ça veut dire que Esaü a haï Jacob à cause de la bénédiction dont Isaac a béni Esaü, pas a béni Jacob. Et en effet, lorsque Esaü, après que Jacob ait reçu sa bénédiction prévue pour lui, est parti et qu'il est revenu du champ, vous vous rappelez, et qu'il demande, regardez bien le verset, il demande à son père, Allo atzalta li bracha, ne m'as-tu pas gardé à moi une bénédiction? Alors il savait très bien ce qui se passait, il aurait dû dire, ne lui avais-tu pas gardé une bénédiction, donne-la moi. Vous avez compris la différence? En fait, tout le monde ferme les yeux dans l'histoire, mais personne n'est dupe. Tiens, ça me rappelle une phrase de Lacan. Vous savez que Lacan s'appelait Jacques Lacan. Il avait un très grand ami que j'ai connu, qui s'appelait Emmanuel Reiss, qui était un des élèves de mon maître, d'ailleurs, et qui le fournissait en midrash juif. Vous savez que l'œuvre de Lacan est sa fourmi de midrash juif déguisé. Et alors, une fois, il avait parlé de cela, de la manière suivante. Je vais écrire au tableau, c'est pas peine. Vous allez, en trois mots, le non-dupe, R. Celui qui n'est pas dupe, R. Jacob est devenu errant, alors c'est l'autre qui s'est fait duper. Il appelait ça le nom du père. Ça veut dire, à qui on donne le nom du père? À Jacob, parce que le nom dupe, erre, et c'est le juif errant. Et il erre tellement que des fois il devient un juif aberrant. Mais je reviens au sujet. En fait, ce qu'on ne voit pas dans le verset, il y a aussi dans le verset, c'est que Esaü haït Jacob à cause de la bénédiction que son père Isaac a donnée à lui, Esaü. Parce que lorsqu'il est revenu, de quoi son père l'a béni ? Al-Harbecha Tihye, tu vivras de ton épée. C'est une bénédiction terrible. Et alors, Esaü ne peut pas ne pas être marchand de canon. Et bien, il n'y a qu'à lire toute l'histoire de la tradition romaine pour savoir qu'est-ce que c'est que la Pax Romana, la guerre. Okay ? Ils appellent ça la paix. Et au point qu'ils ont pris une épée, ils l'ont tournée à l'envers, ça fait une croix. Vous avez remarqué ? Pour revenir au sujet, c'est la Rome païenne devenant la Rome chrétienne, le sabre et l'épée. Et alors imaginez cette conscience, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais essayez quand même d'imaginer théoriquement, de savoir que sa bénédiction, c'est cette chose terrible qui est le meurtre du frère par le frère. C'est comme ça que ça commence Romulus et Rémus. Vous vous souvenez de ça? Alors le mythe romain félicite celui, le frère qui a tué le frère pour fonder la cité. Et qu'est-ce qu'il en résulte? La malédiction des armes, la malédiction de Caïn. Mais alors, chez le Romain, c'est ça la cité. Et d'ailleurs, avec toute l'économie occidentale tourne autour de la fabrication des armes. Leur plus grande difficulté, c'est d'arriver, quand ça devient nécessaire, à transformer les socs d'épée, les épées en socs de charrue, comme dit Isaïe. Et alors, remarquez, on leur donne un coup de main. Il y a un juif qui est devenu chrétien pour fabriquer des armes, il s'appelle Marcel Dassault. C'est lui les chars d'assaut. Enfin, les avions, vous connaissez ça. Mais il est chrétien. Donc. Einstein qui a inventé la bombe atomique. Mais enfin, donc, on peut leur donner un coup de main, en passant. Mais enfin, il faut être romain pour être martien. Et alors, imaginez ça. Et subitement, il découvre que c'est sa bénédiction mais que la bénédiction de l'amour, c'est Jacob qui l'a. Alors il a beau être la religion de l'amour, il vide son épée. Alors imaginez la haine que ça peut projeter sur l'autre, à cause de la bénédiction que lui a, que Ésaü a. Vous avez compris, bon. Alors effectivement, la question que tu as posée, c'est une question énorme. Jacob ne peut pas aimer Ésaü. Un tzaddik ne peut pas aimer un rachat. Un juif ne peut pas aimer un romain. Et à partir du moment où on sait qui on est et qui il est. Mais, rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure, Jacob, c'est encore pas Israël. Il faut avoir une toute autre envergure pour que ça se dénoue. Israël peut résoudre le problème des amis, pas Jacob. Et d'ailleurs, c'est clair, la relation avec l'idée d'un Ésaü qui redeviendrait cachère, ça ne peut pas sortir des yeshivotes de Jacob. C'est pas possible. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Il n'y a qu'Israël qui peut renouer avec le Vatican. Jamais la synagogue ne pourra renouer avec le Vatican. Même si le grand rabbin de Rome ou le grand rabbin d'Israël, mais ce n'est pas comme israélien qui l'a fait, a des mondanités pieuses avec sa sainteté. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a pu se résoudre qu'au niveau de la politique israélienne par rapport à la politique vaticane. Voilà. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que Shimon Peretz aime Jean-Paul II. Je crois qu'il préfère Arafat. Oui.
Question à Régel Assad, vous parlez de l'incompatibilité entre Rome et Jérusalem. Est-ce que par rapport à Athènes, il y a aussi une incompatibilité?
Absolue. Absolue, mais absolue dans le fond. Mais, et ça nous a coûté très cher, l'assimilation à l'hellénisme. Ça nous a coûté très cher. On rentre à Hanouka, c'est énorme. L'affrontement entre judéens et grecs. Mais avec cette différence que, finalement, c'est Rome qui réalise le génie de Athènes, d'une certaine manière. Je vous dis une petite parenthèse. Athènes a fondé le langage des sciences et l'esthétique. Et c'est Athènes qui a, comment dire, de manière irréversible, fait que un goy qui lit la Bible ne peut pas la lire en hébreu. Il la lit, même quand il la lit en latin, il la lit en grec. Je m'explique. Le grec, ça on en parle plus à propos de Hanouka, le grec est celui qui est sollicité par les évidences des catégories de la matière. Et encore une fois, cette civilisation qui a fondé le langage des sciences et l'esthétique, en tout cas, de la civilisation moderne. Il y a d'autres esthétiques, mais les canons de l'esthétique, disons occidentale, sont les canons grecs. Je sais bien qu'il y a dans le monde moderne la mode du lait en tant que beau. Alors on prend n'importe quoi pour dire c'est de l'art. C'est une phrase à eux, ça. C'est ni l'art, ni je sais pas quoi. Mais quoi qu'il en soit, les canons de l'esthétique occidentale, c'est quand même les Grecs qui les ont vécus, qui les ont formulés. Et, c'est-à-dire, ils sont sensibles à tout ce qui est déterminé, impersonnel, quantitatif. C'est la science occidentale, dans ce qu'elle a d'aveugle par rapport à tout ce qui est l'esprit, la qualité, la liberté, la valeur morale. Le grec est sollicité par le déterminisme. Et c'est pourquoi, lorsqu'il lit la Bible, il transforme en Dieu mort le Dieu vivant. Parce qu'il projette les lois de la matière sur l'esprit. Et d'autre part, l'esthétique, qui est corollaire. Ça ne veut pas dire que le grec n'a pas eu l'intuition de la moralité, mais il est persuadé, la conviction que la moralité ne peut pas se réaliser, elle ne peut que se contempler. Et c'est pourquoi le juste pour Socrate, c'est celui qui connaît la vérité morale, pas qui la pratique. D'ailleurs, la relation entre Socrate et Platon, son disciple, n'a rien à voir avec la relation morale entre un maître et son élève. Vous savez de quoi je ne veux pas parler, hein ? Si vous n'avez pas oublié. C'est ce qu'on appelle amour platonique. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, c'est-à-dire c'est une conscience qui est, par définition, tragique et contemplative. Et c'est ça, c'est ce que les Grecs ont scellé dans la civilisation occidentale. Rome y a mis le génie de civilisation impériale. Et c'est pourquoi nous avons réalité le problème de Babel, le problème de la Perse, le problème de la Grèce, mais le problème qui récapitule tous les antagonismes avec Israël, c'est Rome. Elle récapitule tous. C'est un fait. Alors, est-ce qu'on arrive à un temps où Rome et Jérusalem vont faire la paix? Ça, je ne sais pas. Mais, une fois donné la comparaison suivante, vous savez, nous avons deux mains. L'homme a deux mains. Il y a la main droite et la main gauche. Je crois que je l'ai mis dans votre livre. Ça ne peut absolument pas coïncider. Tout ce que les deux mains peuvent faire, c'est se serrer la main. Alors eux, ils font comme ça. Et nous, on fait autrement. Mais on ne pourra jamais faire qu'une main droite sur une main gauche, une main gauche sur une main droite. Et la preuve, c'est que nous, on écrit comme ça, et eux, ils écrivent comme ça. Lequel des deux est à l'envers? Il paraît que les Juifs belges ont un secret. Eux, ils sont à l'inverse. Bien, en fait, aucun des deux n'est à l'envers. C'est quand un juif se met en grec qu'il est à l'envers, et quand un grec se met en hébreu qu'il est à l'envers. Alors peut-être que est en train de s'ouvrir un temps où on va voir vraiment les trois antagonistes à Jérusalem, c'est-à-dire Ishmaël, Esav et Israël. Comme par coïncidence, le lendemain d'Israël, Ashkenaz en tout cas, s'appelle Israël. Oui, toutes les coïncidences sont dans la nature. Mais je parle du lendemain là-haut. Mais, allô? Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est absolument pas la rencontre, ni entre le Romain de Rome, ni entre le Romain là-haut avec le pape qui a arrangé ça. C'est une histoire des affaires étrangères entre elles. Je pense que c'est suffisamment clair. Comme quoi Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Mais voilà, nous sommes arrivés à ce texte. Alors en tout cas, on se dit Shabbat Shalom. Et à la prochaine fois, lisez la paracha.